93.1, c'est de nouveau du direct, il est 21h, nous sommes bien au mois d'octobre et non pas au mois de mai. Il fait 28 degrés à Paris et je suis pas tout seul, comme depuis quelques émissions avec Lucas. Comment ça va Lucas?
Je suis en t-shirt effectivement.
Et oui, incroyable ce temps.
En plein mois d'octobre et ça va très bien, je te remercie.
Ce soir, pas d'invité, on va être tous les deux avec Lucas, mais évidemment avec vous, un numéro de téléphone 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. Si vous souhaitez jouer avec nous, nous téléphoner, échanger sur l'actualité, sur votre vie, sur le quotidien, sur votre avenir, sur le passé, si vous souhaitez aussi l'évoquer, on est avec vous jusqu'à 23h. Et évidemment, nous allons agrémenter cette émission à travers de nombreux sujets d'actualité. Il fait tout, il fait bon, c'est peut-être inquiétant, mais c'est agréable. Et on se retrouve dans quelques secondes. Que courir le générique, ça nous prend la moitié de l'émission. Ça va Lucas?
Ça va très bien toi.
C'est allé, ça va, il fait bon en effet, c'est ce que je disais. On va discuter ensemble tranquillement. Voilà, il y a des soirs comme ça, il n'y a pas d'invité, mais c'est pas grave.
Ouais, on a plein de choses à se dire et puis on est prêt aussi à vous entendre sur tous ces sujets. On espère que ça va vous intéresser ce qu'on va pouvoir se raconter ce soir.
Et en effet, je rappelle le numéro de téléphone 09 72 51 55 46 à tous ces auditeurs qui n'osent pas passer un petit coup de fil. Écoutez, nous, ça nous ferait bien plaisir que vous nous appelez à ce numéro 09 72 51 55 46. Il y a aussi le chat sur causecommune.fm. Vous allez sur l'onglet et pour cause et je lis en direct vos messages, vos interventions, vos préoccupations. Voilà, on peut échanger aussi à travers ce site qui est causecommune.fm et je vous invite à découvrir la grille de nos émissions qui est assez riche. Il se passe plein de choses sur cette antenne et vous n'êtes pas sur France Culture mais bien sur Cause Commune et c'est du direct.
Effectivement, et même d'ailleurs, il se passe même des choses dans les studios puisque vendredi prochain, c'est apéro Cause Commune. Si vous voulez venir nous rencontrer, si vous voulez venir échanger avec nous, c'est possible. Il suffit de venir nous voir vendredi soir dans les locaux de la radio Cause Commune.
Et oui, et d'ailleurs, on a eu des belles surprises et certaines personnes ont proposé des émissions et maintenant ils font partie de l'équipe.
Et je suis là parce que j'ai fait un apéro, j'ai dit
c'est vrai.
Oh, j'aimerais bien refaire de l'antenne et que on m'a dit rejoins Karim.
Ah voilà, c'est ça. Comme ça, je suis pas tout seul. Le lundi soir dans ses studios et ça fait bien plaisir. Nous allons évoquer pas mal de choses. Alors je sais pas si on a envie de revenir sur les punaises de lit, etc. On a parlé.
Je suis parano maintenant. Je suis complètement parano.
C'est vrai.
Ah ouais, j'y pense tout le temps. Dès que je suis dans les transports, j'ai pris le train ce week-end. Là, à chaque fois que je prends le métro matin et soir, je suis parano. C'est complètement idiot. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas à quoi ça ressemble parce que c'est ça. Hein, je pense que c'est un défaut d'information.
On peut les voir à l'œil nu, les punaises.
C'est sûr, c'est vrai ça.
Oui, on peut.
C'est
les
pas
voir.
Des dangers invisibles.
Non, non, mais en tout cas, la mairie de Paris a demandé à l'État d'intervenir parce que c'était une vraie problématique. À quelques mois des Jeux Olympiques et puis d'autres se permettent sur des antennes de poser cette question. Voilà, est-ce que ce n'est pas la faute des migrants?
Ah oui, la séquence est assez extraordinaire pour raconter à quoi tu fais référence à nos auditeurs. C'est un présentateur d'extrême droite d'une chaîne d'extrême droite qui demande à son invité.
Ah, tu l'assumes,
si...
d'extrême droite, tu dis, bah oui, enfin.
Oh bah oui, et je parle de Pascal Pro, si tu veux, on est jusqu'au bout, sur ces news, qui demande à son invité si effectivement il n'y a pas un lien entre l'hygiène des immigrés et la présence de punaises de lit. Ce à quoi, et la séquence est assez savoureuse pour ça, l'invité se contente d'un pas du tout.
Et,
assez efficace et d'ailleurs c'est assez amusant aussi de le voir réagir parce qu'en fin d'émission il a également réagi au fait que ça a fait réagir sur les réseaux sociaux. On est dans un espèce de cercle vicieux de auto-alimenté entre la bêtise dit à l'antenne, la reprise sur les réseaux sociaux et puis la reprise des réseaux sociaux à l'antenne, et il est venu se justifier tout de même de ses propos qui n'étaient selon lui ni racistes ni insultants envers les immigrés, et il raconte une toute nouvelle histoire et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant dans cette séquence un petit peu instructif, c'est que lorsqu'il s'explique sur ce qu'il a dit, il parle de tourisme, il parle de voyage, d'importer des choses. Ce n'est pas du tout ce qu'il avait dit au départ, ce n'est pas du tout le sens de sa question, qui parlait bien d'hygiène et d'immigration, pas du tout de tourisme et de voyage. C'est assez amusant de voir que même dans toute sa logique d'extrême droite, il n'arrive pas à l'assumer jusqu'au bout. Il se rend compte lui-même que sa logique ne tient pas vraiment le coup.
Alors ce qui est étonnant, on en parlait parce que j'étais là aussi samedi avec Patrick Brune Jacinto et Olivier sur, dans l'émission Sous les lapsus de l'actu, et on évoquait le fait que Pascal Praud est omniprésent, parce qu'en effet, il a son émission le matin sur CNews, il a son émission le soir, entre les deux, il fait de la radio sur Europe 1, et il intervient aussi dans le journal du dimanche. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il crée une polémique le matin même, le soir il se justifie.
Il la commente ensuite.
Il la commente, ouais. Etc. Donc là, aujourd'hui, il s'est plaint de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux pendant le week-end, qu'il a pris cher, Pascal Praud.
À cause de quoi ?
À cause de ses propos sur l'immigrant.
Cela même, d'accord.
Voilà, cela même. Donc voilà, il était pas très bien. Et l'ARCOM a été saisi. Donc,
oui,
je suis pas
d'hab,
sûr,
hein.
À une suite, il pose des questions, il dit que je pose une question, il a tourné comme ça.
Oui, bien sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est d'ailleurs intéressant d'analyser aujourd'hui, et on n'a plus le choix, hein, on ne peut plus reculer, on est obligé d'analyser les méthodes de l'extrême droite pour progresser dans le débat public, pour ouvrir, comme on le dit, comme ça a été rendu célèbre à la fenêtre d'Overton. J'ai expliqué en deux mots, c'est juste tenir des propos outranciers pour que des propos qui autrefois étaient intolérables paraissent modérés en comparaison. C'est quelque chose qui a été très très utilisé, qui est fait énormément depuis pas mal de temps et qui permet donc à des gens de tenir des propos qui hier étaient inacceptables et qui aujourd'hui paraissent quasiment modérés. Ça va être par exemple Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui peut dire que le RN est républicain. Ça c'est assez extraordinaire de l'entendre dire aujourd'hui, venant d'un président qui lui est censé l'être républicain et en plus a même nommé son parti comme ça puisque ça n'allait pas sans dire. Et du coup, on se retrouve avec des propos qui sont totalement admis. Mais attention, la fenêtre d'Overton, ça ne marche pas qu'à extrême droite, et je suis persuadé, j'adorerais l'interviewer et l'interroger pour cela, mais je suis persuadé que c'est exactement la stratégie de Sandrine Rousseau d'aller dans l'outrance pour faire paraître finalement les idées de gauche plus acceptables et plus normales, alors qu'elles ont été largement ostracisées ces dernières années dans le débat public. Même les faits ont été ostracisés. J'en veux pour preuve ce matin une séquence absolument incroyable que je ne résiste pas à l'idée de te raconter, Karim, puisque je me réveille bien malgré moi, non pas malgré moi, je le choisis, mais c'est toujours instructif, avec non pas Pascal Praud, parce que je ne me veux pas tant de mal que ça, mais avec les informés de France Info, qui est donc une autre radio, qui disait ce matin plein de choses. On avait trois représentants, quatre représentants même de France Info. Il n'y avait pas d'intervenants extérieurs ce matin. Et une des journalistes de France Info disait que l'un dans l'autre, si on fait le bilan, eh bien le bilan de Gérald Darmanin, les chiffres de Gérald Darmanin sont pas bons en réalité. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu énormément de problèmes depuis qu'il est là. Elle ne va pas dire que c'est de sa faute ou non. Elle dit juste que les chiffres, si on les prend objectivement, ils ne sont pas bons. Et la levée pas une levée de bouclier, mais la levée de crainte qu'il y a eu autour était assez significative. Ils ont été choqués par les propos de cette journaliste. On dit, oh là là, on va avoir des problèmes, ou tu vas avoir des problèmes, j'ai plus la séquence exactement en tête. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette réaction, c'est un rapport au pouvoir qui, je pense, a changé. Les faits, s'ils sont défavorables au pouvoir, deviennent des problèmes, deviennent quelque chose que l'on ne peut pas aussi bien dire qu'avant. Alors que ce sont des faits, qu'on pense ce qu'on veut, que les justifications derrière les mauvais chiffres soient bonnes ou mauvaises, que ce soit la compétence de Gérald Darmanin ou des conditions extérieures qui soient mises en cause, ne change rien au fait que, eh bien oui, c'est difficile, les choses sont difficiles, il y a des émeutes, il y a des bavures, il y a des blessures, il y a énormément de problèmes en France, des manifestations en veux-tu en voilà. La réalité est que le bilan social, le bilan sécuritaire de la France n'est pas extraordinaire depuis l'arrivée de Gérald Darmanin, et dire ça visiblement, quelles que soient les raisons derrière, eh bien c'est choquant, c'est presque inacceptable. Et pour moi, ça dit beaucoup de l'environnement dans lequel on est, et c'est en cela que je fais un parallèle avec ce que je disais sur la fenêtre d'Overton, c'est en cela que finalement, peut-être que Sandrine Rousseau n'a pas tout à fait tort de tenter d'ouvrir à nouveau la fenêtre d'Overton à gauche, parce que ne serait-ce que tenir des faits qui seraient contraires à une vision de droite, une vision politique de droite, et bien visiblement, ça suffirait à choquer.
Bien. T'as bien déroulé là.
Un petit peu, ouais.
Ouais, non, c'est bien.
Je me suis permis d'avoir le temps pour prendre le temps.
Tu as le temps ce soir, prends tout ton temps. On va parler aussi, on va évoquer ce papier de Mediapart concernant l'affaire Eddy. Et en effet, les images, alors vous vous souvenez hein, de ce jeune qui s'est fait défoncer par la police, il a perdu la moitié de son crâne. Et les images de vidéosurveillance accablent les policiers. Donc je vais lire un petit peu le papier pour vraiment contextualiser. Et puis en effet, on va saluer nos nos confrères de Mediapart. Mediapart publie les enregistrements de vidéosurveillance montrant les violences commises par 4 policiers sur Eddy dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. Des faits pour lesquels les fonctionnaires, dont certains les nient, ont été mis en examen. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. C'était le 23 juillet dernier. Le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, avait apporté tout son soutien aux 4 policiers de la brigade anticriminalité, la BAC, mis en examen pour avoir grièvement blessé Eddy à la tête dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, en marge des révoltes à la suite du décès de Naël. L'un d'entre eux avait en effet été placé en détention et depuis remis en liberté. Or, les images des caméras de vidéosurveillance que Mediapart publie ci-dessous révèlent l'extrême violence des coups portés et leur gratuité. Ci-dessous, c'est sur le site de Mediapart, donc si vous voulez voir les images, vous allez sur le site si vous avez un petit abonnement. Sinon, je pense que vous pouvez les retrouver ailleurs. À mon avis, ça a été repris certainement sur les réseaux sociaux. Sur la base de ces vidéos jamais rendues publiques, 4 policiers ont été mis en examen le 20 juillet pour violence volontaire aggravée, notamment parce qu'elles ont été commises en réunion par des personnes dépositaires de l'autorité public et avec armes. La suite des investigations doit notamment déterminer la légitimité de tir de LBD et l'implication de la commandante Virginie G qui dirigeait alors cette unité. Depuis, comme l'a révélé Mediapart, le policier Christophe I, qui a reconnu être l'auteur du tir, parmi les 3 autres policiers mis en cause pour avoir tabassé le jeune homme, seul l'un d'entre eux, Gilles A, reconnaît avoir participé à ces violences tout en les minimisant. Les 2 autres fonctionnaires, alors Boris P ainsi que David B, nient les faits alors même qu'ils sont clairement identifiables. Quant à la commandante Virginie G, elle déclare n'avoir rien vu et rien entendu. Donc voilà, contrairement aux déclarations du policier Christophe I, qui déclare avoir tiré à une distance de 10 à 15 mètres, peut-être 15-20 mètres, selon nos calculs basés sur le moment où le policier est en position de tir et le moment où Eddy s'écroule. Le tir aurait eu lieu à une distance comprise entre 5 et 8 mètres. 8 mètres 15 exactement. Mediapart a interrogé la direction générale de la police nationale sur la distance minimale à respecter. Elle n'a pas été en mesure de répondre. Les policiers viennent de récolter près de 6000 euros à la suite d'une tombola et d'un concours de pétanque organisé en soutien par le syndicat Alliance le 29 septembre à Plan de Cuc, près de Marseille. Le 25 septembre, Eddy, lui, a subi une nouvelle opération.
Les images que l'on voit sur Mediapart sont assez édifiantes. Elles montrent déjà une chose qui doit être, je pense, dite et qui vous servira si jamais vous devez débattre avec tonton fasciste. C'est que la rue est parfaitement calme à ce moment-là. Et les images s'étalent sur une dizaine de minutes, celles qui ont été diffusées par Mediapart. Et il n'y a aucune image de violence. Il y a eu des violences. C'était les émeutes. C'était vraiment le bazar, évidemment. Mais ils n'ont pas été, comme ils l'avaient pu l'affirmer à ce moment-là, pris à partie par des jets, des projectiles. Et on va y revenir à cette histoire de projectiles, d'ailleurs, parce que ça va revenir une deuxième fois un petit peu plus tard. Ce que l'on voit, ce sont des policiers. On les voit les 5. Les 5 que tu as nommés. Les 3 qui n'ont pas le LBD. Celui qui a le LBD. Et puis la commandante. Donc Virginie G, comme il l'appelle. On les voit remonter la rue, on les voit tourner. Il se trouve qu'il y a 2 caméras, une sur chaque rue dont je m'apprête à parler. On les voit tourner dans une deuxième rue avec une caméra de meilleure qualité, mais en noir et blanc. Et lorsqu'ils reviendront, ils croiseront à ce moment-là Eddy, qui justement faisait le même chemin derrière eux, qui les croise, et au moment où ils se croisent, Eddy part en courant avec son copain. Pourquoi il part en courant? Lui déclare qu'il a trouvé les policiers tendus au regard noir et qu'il a pris peur. Toujours est-il qu'il court et il ne longe pas le mur, il court et tourne au milieu de la rue. Et c'est à ce moment-là qu'il est atteint du tir de LBD de la part du policier qui lui se trouve de l'autre côté de la rue, donc depuis le trottoir. Du trottoir à la rue, il y a entre 5 et 8 mètres 15, comme ils le disent, puisque ça dépend un petit peu à quel moment le tir a été effectué. C'est là que Eddy s'écroule. Selon le policier qui a tiré, il aurait fait un geste qui laissait supposer qu'il allait lancer une pierre. Les images sont de trop mauvaise qualité pour qu'on puisse le voir, mais c'est autant dire très peu probable. Il y a quelques secondes à peine qui s'écoulent entre le moment où Eddy prend peur, court, et le moment où il est, j'allais dire, abattu, mais en tout cas où il reçoit un tir de LBD dans le crâne. Ce qu'on voit dans les images, c'est que les policiers viennent le relever, ou ils se relèvent. En tout cas, ils viennent, ils l'emmènent loin de la première rue, celle où il y a une caméra qui prend toute la vue, et puis ils l'emmènent dans la deuxième, où la caméra est peut-être un peu plus lointaine, peut-être qu'ils ne l'ont pas vue, je ne sais pas. J'ai dit qu'elle était de meilleure qualité, mais en réalité, dans les deux cas, la qualité est assez médiocre. Il l'emmène dans ce coin-là, et puis il commence à le molester. Il donne des coups, il le frappe au sol. À peu près tous le font. Et puis il finit par se relever, où il le relève, et il leur donne, il reçoit un dernier coup de pied au moment où il finit par s'enfuir une nouvelle fois, et cette fois-ci, ils ne tentent pas de le rattraper. Ils ont commis leur méfait. Les images sont véritablement accablantes. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils se sont au moins un minima acharné sur lui après lui avoir tiré dessus avec le LBD. Ce qui ne fait pas de doute non plus, c'est que le policier qui a tiré au LBD avait d'abord, dans un premier temps, nié avoir utilisé son arme ce soir-là.
Ouais, j'étais en train de regarder les images en même temps que tu commentais. Alors, ce qui est étonnant de nouveau, c'est qu'on a une fausse déclaration des policiers.
Une de plus.
Voilà. Et alors, tu vois, moi, j'étais pas trop chaud pour les caméras de surveillance en France et dans les grandes agglomérations un peu partout. Et finalement, heureusement que ces images existent. Voilà. On le rappelle, hein, le policier qui était détenu est sorti il y a quelques temps. Et donc, je pense que tout ça va un petit peu relancer l'affaire. Voilà, on l'espère, et on voit très bien qu'il fait rien, il n'est pas agressif. En effet, il se met à courir, mais bon.
Ah, il se met à courir.
On peut avoir peur. Est-ce que ça justifie un tir de LBD en pleine tronche?
Il y a d'ailleurs je pense à une autre image qui est sortie il n'y a pas très longtemps, d'un garçon qui a décidé aussi de fuir la police qui arrivait près de lui dans un rond-point. On le voit s'enfuir. Et la police descend de la voiture en catastrophe, évidemment, pour le poursuivre. Et tombe sur un gars qui, lui, n'avait pas fui, parce que il se sentait pas vraiment concerné. Et c'est lui qui se fait molester, à ce moment-là. Tous ceux qui auront pour argument, attention, ça ne sert à rien, faut pas fuir. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il a fui, qu'il a cherché un petit peu, c'est la jupe du délinquant, hein, la fuite. Eh bien, sachez que non, ne pas fuir, c'est aussi s'exposer à des véritables risques lorsque l'on tombe sur des caïds. Parce que malheureusement, ces policiers ne sont pas des policiers, ce sont des caïds. Ce sont des petits cons, des bandits, des gens qui se défoulent, qui sont là pour se défouler, pour s'amuser, aux dépens des autres, de gens qu'ils traitent comme moins que des humains. Et tant qu'on ira la réalité, tant qu'on ira l'existence, tant qu'à chaque fois que l'on a des images telles que celles-ci, on entendra « laissons la justice faire son travail », eh bien on n'avancera pas, parce que oui, il faut laisser la justice faire son travail, il n'y a aucun problème, mais en attendant, il faut agir. Il faut dire stop. Il faut dire si vous voulez un discours politique clé en main, le voici. Si les faits sont confirmés, ils sont inacceptables. Ce n'est pas un comportement que l'on peut tolérer. Et il faut, en attendant que la justice fasse son chemin, que tous ces policiers soient mis à pied. Il faut qu'ils perdent leur salaire. Il faut qu'on arrête de les aider et de faire des cagnottes pour ces voyous.
Alors
pour ces dangers.
J'étais à la manifestation que j'ai couverte. Alors c'était pas anti-police, hein, c'était
contre les violences policières.
Contre les violences policières, avec de vrais témoignages. Et je vous invite à réécouter l'émission. Je ne sais pas si elle est quelque part, certainement en podcast. On a dû la mettre ou elle va être mise dans très peu de temps. Voilà, avec des propos très cohérents, des personnes. Moi, j'ai couvert cette manifestation pendant 3 heures avec pas mal de témoignages, mais de tout horizon, de tout métier, corps social, etc. Voilà, et la police, alors très peu le dénonce sur le côté systémique, et pas, alors on dit non mais ils sont pas tous pareils, mais on est dans la formation, on est dans le maintien de l'ordre. On s'aperçoit depuis quelques temps, malgré tout, combien d'œil arrachés, de yeux arrachés, là, Eddie, c'est assez impressionnant qu'on voit la tête d'Eddie.
J'arrive pas à regarder,
Où il lui manque la moitié d'un crâne, et il a visé personne, il n'était pas armé, on n'était pas en légitime défense. Quand on court, on n'est pas en légitime défense. Et on
et combien de morts aussi.
Et voilà, et combien de morts aussi. On se souvient aussi, on en a parlé de Zecler, hein, c'est ça,
ouais, qui était dans son studio
avec. Et heureusement qu'il avait lui aussi une caméra de surveillance. Et heureusement, et finalement, la vidéo est une arme aussi pour prouver tout ça. Et on le répète ici à cause commune, il y a vraiment un travail de fond par rapport à ça. Alors certains vont dire que on est dans une radicalité, que c'est l'extrême gauche qui s'exprime, qui sont anti-policiers, anti-flics. Tous les élus que j'ai vus de LFI ont tous dit, et dont Madame Bobono, qui est à mon micro, n'a pas dit qu'elle était anti-flic, et personne n'est anti-flic. Lucas ou, et moi, si on a un problème un jour, et si on doit appeler la police parce qu'on a une galère, on l'appellera la police, évidemment. Si on se fait cambrioler, taper, on ira porter plainte, on a besoin de la police. Mais sur cette formation de ces policiers qui sont des cow-boys aujourd'hui, qui ont la gâchette facile, LBD et autres, et voilà, il faut quand même faire quelque chose. On s'aperçoit que la poussière est mise sous le tapis. Alors la proposition aussi dans le cadre de cette manif, c'est concernant l'IGPN. L'IGPN ont-ils vraiment une vraie indépendance? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il faut pas aussi refondre tout ça? L'IGPN, c'est les mêmes mecs qui étaient sur le même banc, qui sont devenus à la police des polices, mais ils connaissent, pour la plupart, leurs potes. Est-ce qu'on a une vraie indépendance qu'on doit sanctionner les collègues?
Et même au-delà de ça, ils sont sous les ordres du ministère de l'Intérieur. Et à partir du moment où les bavures servent les intérêts du ministère de l'Intérieur, l'IGPN ne va pas les sanctionner, car c'est là tout l'enjeu que l'on a eu autour des, ne serait-ce que donc le maintien de l'ordre dans les banlieues pendant des années et des années, et les gilets jaunes encore récemment, et puis ensuite toutes les manifestations, puisque ça s'est généralisé, les violences policières pendant les manifestations servent les intérêts du politique, et à partir de ce moment-là, l'IGPN ne peut pas les sanctionner décemment, puisque ça viendrait aller en contradiction avec les intérêts de leur chef.
Tu as suivi aussi cette histoire de cette journaliste qui a été aussi qui on allait chercher chez elle une perquisition, etc. Parce qu'elle a enquêté sur des affaires d'État. Elle a passé 39 heures en garde à vue. On l'évoquait aussi la semaine dernière. Et je disais tout simplement, on va peut-être recontextualiser. Tu connais bien le dossier, Lucas.
Je connais le dossier bien que.
Qu'on puisse aussi en parler. On en a parlé samedi dernier, mais c'est important de revenir là-dessus. Et on disait en fin d'émission, finalement, quand on manifeste, les citoyens sont matés. Maintenant, on s'attaque aux journalistes à travers leurs sources, et on s'aperçoit qu'en démocratie, normalement, il y a un secret par rapport aux sources, on ne doit pas y toucher. Des lois sont passées à travers des 49.3, avec force. D'ailleurs, il y a encore un 49.3 qui est tombé il y a quelques jours.
On s'en préoccupe même plus.
Et voilà, on se dit bon encore. Et donc, on se dit voilà, notre démocratie, là, avec tous ces faits, est-ce qu'on est vrai? Alors, on va dire, mais oui, on est en démocratie, on peut tout dire, et nous-mêmes, on est à un micro, donc on a la parole. Je pense pas qu'on va être en garde à vue en sortant de ce studio avec tout ce qu'on peut dire, mais on se pose des questions, en tout cas depuis quelques années, sur tous nos fondamentaux qui sont touchés.
C'est amusant d'ailleurs qu'on parle de ça et qu'il y ait toutes ces affaires-là, amusant évidemment avec des grands guillemets, puisque demain commencent les états généraux de l'information. Espérons que cela permette de remettre bien au centre toutes ces questions-là. C'est pas une question journalistique, la question d'Ariane Lavrieux en l'occurrence, la journaliste qui a été mise...
Tu peux nous rappeler pour quel média elle travaillait? Elle était
pour le média Disclose, qui est un média d'enquête, qui avait fait une enquête en partenariat avec Radio France, si je dis pas de bêtises, ou France Télé, en tout cas je crois que c'est Radio France. Donc un organisme bien public, et ensemble, ils avaient donc fait des révélations sur des informations données par la France à l'Égypte qui auraient dû servir normalement à réprimer le terrorisme et qui ont servi à lutter contre du trafic. Et donc ils s'en sont servis de ces informations-là pour lutter contre le trafic et de manière très radicale. C'est donc un problème puisqu'on a utilisé des ressources qui étaient pour une chose. Et ils ne s'en serviraient pour l'autre. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Reste que ce sont des révélations qui ont dérangé le gouvernement, qui ont dérangé l'État, qui ont mis en cause les services de l'État. Et la réaction, eh bien, on l'a vu. Ça a été une mise en examen, ça a été une perquisition. Surtout, c'est ça qui a été le plus choquant, puisqu'on a été fouillé
dans son ordinateur, dans son portable, dans tout ce qu'on avait, etc.
Exactement. Ouais. Et ce n'est pas une question journalistique, ce n'est pas une question de journaliste. C'est une question de protection des sources. Parce que suite à cela, eh bien, une de ses sources, un militaire, a été lui mis en examen et c'est lui qui est vraiment mis en danger. Le but n'est pas seulement de punir lui, de lui faire payer ses révélations, mais bien sûr de dissuader quiconque voudrait faire des révélations sur des malversations de l'État et de ses serviteurs, et bien de le décourager de le faire, puisque ça voudrait dire qu'il pourrait être retrouvé et mis en danger à son tour pour ses révélations, pour son courage. On est censé protéger les lanceurs d'alerte depuis 2017, on est censé protéger les sources, et c'est en train de se terminer. Ça y est, on est en train de passer à autre chose, on n'est pas en train de passer à une sorte de logique d'État qui est prête à écraser les gens qui souhaiteraient informer, qui souhaiteraient défendre l'intérêt général, car je sais que les journalistes sont très décriés, et c'est à raison, puisque j'en suis un, on peut dire on est très critiquable à plein de niveaux, mais si on faisait bien notre travail, on défendrait l'intérêt général. C'est difficile de défendre l'intérêt général lorsqu'il y a des intérêts financiers au-dessus de soi et lorsqu'il y a des intérêts de l'État face à soi, des intérêts des hommes d'État, des gens qui veulent le pouvoir, qui veulent le conserver et qui veulent surtout en profiter, en recevoir tous les bénéfices. Là, l'histoire d'Ariane Lavrieux, puis derrière, on a eu aussi des journalistes de Libération qui ont été inquiétés. Tout ça a pour but d'intimider les journalistes et surtout intimider les sources, car il y aura toujours des journalistes pour se lever, pour râler, pour dire, pour défendre leurs droits. On a quand même de très très bonnes protections, les journalistes, on a un syndicat puissant, on a des relais dans la presse, évidemment, puisque c'est nous, la presse. En revanche, nos sources, elles ont toutes les raisons de s'inquiéter. On voit combien elles sont abandonnées, on voit dans quelles difficultés elles sont plongées. J'ai malheureusement plus en tête le nom de la personne. Récemment, on a eu cette histoire d'une femme qui est lanceuse d'alerte et qui est censée bénéficier du régime de protection des lanceurs d'alerte. On en a peut-être même parlé dans cette émission. Il se trouve qu'elle a lancé l'alerte en 2015 et que la loi pour la protection des lanceurs d'alerte n'est arrivée qu'en 2017. Ce qui fait que le tribunal a dit l'État a dit non, on va pas vous donner l'aide qui va normalement aux lanceurs d'alerte, puisqu'elle s'est retrouvée évidemment isolée, au chômage, c'est comme ça que cela se passe. C'est là la véritable cancel culture, si je puis me permettre. C'est quand on prive des ressources les gens qui ont osé parler, qui ont osé s'élever contre les puissants, eh bien, elle s'est retrouvée sans rien et l'État complice, Bercy complice, a dit non, on ne va pas l'indemniser, elle n'a fait que nous aider avant 2017, avant que l'on passe cette loi. Alors, je passe les détails de la procédure, puisque elle conteste, elle dit qu'elle a continué à aider l'État après 2017, et donc qu'elle devrait au moins, puisqu'elle, oui c'est ça, elle a aidé à retrouver plusieurs milliards d'euros qui étaient partis dans les paradis fiscaux. Je crois que c'est l'affaire UBS d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle a dit, j'ai continué à aider après 2017. Donc, normalement, vous pourriez au moins reconnaître ça et donc m'octroyer cette aide aux lanceurs d'alerte. Non, on ne veut pas. On ne veut pas, très clairement. Ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question de ce qui est prévu par la loi ou non. C'est une question de volonté. Il n'y a clairement pas une volonté d'aider les lanceurs d'alerte au plus haut niveau de l'État. Et personnellement, ça m'inquiète vraiment, vraiment au plus haut point.
C'est vrai, ça t'inquiète Ouais, c'est t'inquiète.
Non, mais là, ça va pas, là. Là, ça va vraiment, vraiment pas.
Et est-ce que tu crois pas qu'il y aura des phénomènes d'autocensure, ce qui est le pire pour un journaliste, de dire j'y vais pas, parce que je vais avoir des problèmes, je vais être inquiété, ma famille va être inquiétée, je vais finir en garde-ave, je vais pas révéler, et que le journalisme d'investigation, ça va être compliqué, quoi, tout bêtement. Et moi, j'ai discuté avec des journalistes de Libé, il y a quelques temps, et ils me disaient le pire, c'est ça. C'est de se dire je n'y vais pas, je m'auto-censure, je me censure, parce que derrière il y aura des choses qui vont se passer.
Alors j'ai quand même bon espoir que, ne serait-ce que dans le romantisme d'une posture sacrificielle, il y aura toujours des journalistes pour continuer à faire leur ce combat. Mais ce qui est plus risqué, au-delà, comme je viens de le dire, de la question des sources, qui elles peut-être n'oseront pas, il y a aussi l'ostracisme, c'est-à-dire que lorsque l'on se présente comme un journaliste qui souhaite révéler des choses, eh bien on devient un journaliste militant, comme ça a été souvent utilisé comme une insulte, comme une manière de voir le journalisme qui ne serait pas bonne. On serait un journaliste militant à partir du moment où on aurait des convictions et qu'on souhaiterait défendre un certain nombre de principes que l'on considère justes. Vouloir défendre la justice et l'intérêt général, ça fait partie de la base de la mission d'un journaliste. C'est pas être un militant, c'est être un journaliste.
Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1, c'est du direct avec Lucas qui m'accompagne jusqu'à 23h. Et je casse tout, c'est bien.
C'était quoi hein? Qu'est-ce que tu as fait tomber sur ton téléphone portable, ça, évidemment.
Tout va bien. Et on est bien en direct, voilà, pour le coup. Hein, ça n'a pas été coupé en montage. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. C'est Cause Commune, c'est cette radio que peut-être vous découvrez là, ce soir, dans votre voiture ou ailleurs. Tiens, je vais mettre un petit jingle pour se marrer. Hop.
93 ans en FM.
Voilà, on fait bien de la radio.
Sur le bloc 9A du DAB+.
Absolument, sur le DAB+, et vous pouvez en effet nous appeler 09 72 51 55 46 si vous souhaitez réagir au sujet que nous abordons avec Lucas. Je vais te passer un son, Lucas, et à nos éditeurs, et on va réagir là-dessus. Donc, juste, c'était Attrape, il y avait une manifestation, un regroupement des gens qui manifestaient contre la loi, alors je ne sais même pas si c'est une loi d'ailleurs, concernant la baïa, c'est pas une loi,
c'est un décret.
Et donc il y avait un regroupement avec des personnes voilà, qui parlaient, et cette personne est professeure et ça a fait débat, et on va en parler juste après. Je passe le son, si ça marche.
Et c'est bien une circulaire, t'avais raison.
Ah, c'est une circulaire. Ça marche pas.
Ça marche pas.
Mais ça va venir.
Alors, non, il y a pas de problème.
Non, mais on fait ça en direct. Faut que je me mette sur le.
Et d'ailleurs, c'est amusant. Je précise un petit peu hein, les images, puisqu'on voit donc c'est des gens qui sont réunis pour manifester. La personne qui prend le micro à ce moment-là est en short court et en crop top quasiment. Donc, ce n'est pas une personne qui a pour habitude de s'habiller en abaya. Si c'est la question que éventuellement on pourrait vous poser en entendant.
Mais la polémique va venir d'ailleurs. Tu vas voir. Si j'y arrive, on va relancer. Tac, c'est parti. On y va. Hop, normalement c'est bon. Non, ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Hop, voilà, ça c'est moi et la technique toujours. Alors ça marchait, j'avais mon Bluetooth. Alors j'ai essayé de le passer autrement. Voilà. Donc en fait, je vous explique, chers auditeurs, je suis avec mon portable. Normalement, il y a un Bluetooth qui est connecté ici, mais qui ne fonctionne pas. Et on va essayer de relancer. On t'entend pas? Ah, voilà, c'est bon. Donc elle prend la parole.
Bonjour à tous, oui, je suis d'accord aussi, c'est bien que tout le monde entende un petit peu plus loin que les gens qui sont concernés. Ça, c'est important. Donc oui, effectivement, on est plusieurs, je suis pas toute seule en professeur, on est plusieurs professeurs ici, plusieurs militants féministes, plusieurs personnels de l'éducation, plusieurs travailleurs, avocats, travailleuses qui viennent vous soutenir. Parce qu'évidemment, on est d'accord, on est venus, vous êtes venus nous trouver en réunion. Je suis aussi militante de la Révolution Permanente, je suis professeure à Sarcelles, je viens de Sarcelles ce matin, on vient de Sarcelles ici parce que ce combat, il doit se perpétuer en fait, ce combat pour la liberté en fait de comment on veut s'habiller, de ce qu'on veut faire, de nos vêtements, de ce qu'on a, comment on a le droit d'aller à l'école, ben, ça, et c'est un combat beaucoup plus large, il faudrait surtout le resituer en fait, politiquement en fait, puisque nous on est des profs évidemment, on va venir vous soutenir, on va dénoncer l'attaque sexiste, raciste, islamophobe, mais aussi colonialiste en fait que ce c'est. Et faut qu'on prenne conscience, on peut pas demander à l'État de nous aider, l'État c'est eux qui sont la cause de ça, et ils utilisent l'éducation nationale pour attaquer, pour maintenir leur oppression, pour maintenir leur exploitation. Donc on n'a rien à attendre de ce que vous faites, c'est magnifique, c'est pas l'État, parce que l'État nous-mêmes nous utilise. Et on est trop peu de profs à prendre conscience de ça. Et je m'adresse aussi à l'éducation nationale, largement en fait, pour arrêter d'opprimer. J'ai entendu des témoignages la semaine dernière, parce qu'on est déjà venu, il y a une élève courageuse, elles sont pas là forcément. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de la répression. Elles ont peur, les lycéennes, elles sont pas là parce qu'elles ont peur d'avoir de la répression dans leur lycée. Donc nous, on doit s'adresser, on doit être cette branche de profs, et c'est ce qu'on fait, qui militons vraiment pour ne pas réprimer nos élèves, pour ne pas perpétuer les attaques colonialistes, racistes et sexistes de cette société horrible. Et nous utilisent pour ça. On ne peut pas parler en fait de ces oppressions, c'est pas juste un petit endroit, c'est bien plus que Strap ce que vous faites, c'est magnifique. On est obligé de lier avec les violences policières. C'est clair, parce que moi aussi je suis maman de 3 enfants à Sarcelles qui sont noirs, qui sont musulmans. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés avec Myriam, en disant que moi aussi j'ai peur quand mon fils il va au foot en fait à Sarcelles, parce que j'habite aussi à Sarcelles. J'ai peur que mon enfant il va au foot, j'ai peur que ma fille elle marche comme ça, elle soit cachée parce qu'elle est pudique aussi, sur, j'en ai rien à foutre comment elle s'habille. Ou que les filles ne soient pas pudiques, c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet c'est qu'on s'habille comme on veut et on a le droit de vivre librement dans une société digne en fait. Et les offensives sur les quartiers populaires, elles sont terribles depuis la rentrée. Elles sont terribles. Et les femmes, elles subissent l'ensemble des oppressions de cette rentrée. On ne peut pas sortir cette bataille, cette lutte du contexte politique. Vous voyez qu'à la frontière, il y a des milliers de migrants. Vous voyez qu'il y a des milliers de migrants. Ils préparent un monde où on dit « vous n'êtes pas les bienvenus ». alors qu'on exploite là-bas ces colonialistes, on exploite dans les pays d'origine, on les exploite, on prend le roseille. Mais par contre, quand les gens ils veulent venir, là par contre, on n'accueille plus personne, vous n'êtes pas là, bienvenue. Ah, vous voulez relever la tête, vous voulez faire des émeutes, vous voulez vous rebeller. Vous avez vu comment ils ont flippé? Cette attaque de la rentrée, c'est clairement post l'attaque des émeutes. C'est pour mettre au pas la jeunesse, mettre au pas, les canaliser dans leur corps. Nos fils, ils les tabassent dans les commissariats. Nos fils, ils les emprisonnent. 2000 arrestations après les émeutes. Et nos filles, ils les empêchent d'aller étudier, ils les empêchent d'aller à l'école. Ils les coincent à la maison, ils les enferment. Ils veulent enfermer vos corps parce que vous relevez la tête. Alors oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais vous faites ça pour vous tous. Vous faites ça pour vous tous. Pendant le Covid, qui est mort? Qui est mort le plus dans les quartiers populaires? C'était pas une histoire de génétique, hein. C'est parce que c'est les travailleuses et les travailleurs essentiels qui étaient sur le terrain, qui n'étaient pas derrière leurs ordinateurs, dans leur maison de campagne. Parce qu'on a taffé pour que leur monde y continue de tourner. Et que c'est un combat global, qu'on mange l'inflation, qu'on n'arrive pas à payer les courses de rentrée de nos gamins, qu'on a les salaires de merde, qu'on se fait criminaliser. Et vous les femmes, et nous les mères, je me mets dedans, nous les mères, on se fait criminaliser comme si on savait pas éduquer nos enfants. Mais ça, c'est une stratégie. Et en tant que personnel de l'éducation, jamais de la vie, on va soutenir ça et on va parler, on va essayer de faire en sorte que les gens prennent conscience que non, l'éducation nationale n'émancipe pas. L'éducation nationale a pour but du gouvernement de maintenir l'ordre, de maintenir nos enfants fermés là, dans Parcoursup, rester travailler sur les jobs qu'on veut pas, mal payés, fermés là. Et je suis trop fière, Laetitia Attrape. C'était loin, hein. Mais je suis grave fière, Laetitia Attrape.
Voilà. Et voilà. Donc, c'est une prof. Voilà, elle le dit, elle fait partie de Révolution Permanente, elle s'exprime, elle dit plein de choses, hein, là, lors de cette manifestation, et la polémique vient du fait qu'elle soit en effet professeure au sein de l'éducation nationale, donc elle critique elle-même l'employeur pour qui elle travaille. Est-ce que toi, selon toi, Lucas, est-ce que c'est sa place en tant que professeur d'avoir ce genre de discours? Est-ce qu'elle peut avoir ce genre de discours ou pas? Donc elle évoque plein de choses, hein, les violences policières, ce qu'elle dit, la police du vêtement, etc. Elle parle de l'état raciste, colonialiste. Est-ce qu'elle peut prendre la parole et en tout cas s'afficher en tant que professeur et le clamer haut et fort?
Bon, après, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Tiens, avant de te répondre, j'ai envie de savoir ton avis.
Mais je te pose la question.
Bon, mais non, que non, non,
alors... Bah, c'est une vraie question. Alors, c'est vrai que quand on est normalement fonctionnaire, en tout cas, on doit avoir un devoir de réserve. Malgré tout, on a le droit de manifester, on a le droit de faire des choses, etc. Donc, mais là, c'est pas dans le cadre de son travail. Donc, son devoir de réserve, elle a le droit, elle est citoyenne aussi. C'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on peut pas s'exprimer sur une politique, etc. La polémique vient aussi du fait qu'elle dise qu'elle a des enfants noirs, donc eux-mêmes, a priori, enfin, le dit pas, qui sont musulmans. Elle mélange plein de choses. Elle dit plein de choses. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal. On est d'accord, hein, sur les violences policières, sur les quartiers qui ont morflé, sur ça, on peut être d'accord. Mais la question, c'est elle en tant que professeure, tout simplement, et de la fermer au effort. Est-ce qu'après, elle peut avoir du crédit au sein de son établissement, auprès de ses élèves, auprès de ses collègues, auprès de sa hiérarchie? Je sais pas. Moi, je me pose la question. Moi, j'ai pas forcément de réponse à tout. Comme dirait Socrate.
Bravo, finir sur une citation de Socrate, c'est quand même pas mal.
Voilà.
Alors, la première réflexion que je me fais en écoutant, alors oui, est-ce qu'elle a le droit de s'exprimer? Évidemment qu'elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit d'avoir un avis, elle a le droit tant qu'elle ne le garde pour elle lorsqu'elle est devant les élèves, je vois pas où est le problème en réalité. Il y a toujours ce spectre, moi j'ai été élevé dans une famille assez bourgeoise en province, et il y a toujours eu ce spectre là des profs qui manipuleraient les enfants, le risque d'avoir tous ces profs gauchistes qui vont pervertir notre jeunesse. Quelque chose qui a toujours été une petite musique que j'ai entendue depuis que je suis tout petit, et pas forcément que dans ma famille d'ailleurs, on l'entendait beaucoup dans les médias, dans les politiques. Et je suis toujours effaré de voir les incompétences parmi les gens qui sont censés nous éduquer. Je parle vraiment de nos parents directement. Je rigolais là, ce week-end à une réunion amicale, plein d'amis pour un anniversaire, et d'amis d'enfance. On se connaît depuis tout petit, vraiment. On se connaît depuis certains la maternelle, la première section de maternelle même, pour une. Et on a tous quand même des soucis avec nos parents. On a tous eu, à plusieurs niveaux, des familles plus ou moins dysfonctionnelles. Et j'avais notamment cette amie qui m'a... Ma première... Je vais faire un parallèle, mais ma première conviction que l'adoption par des couples homosexuels est venue de l'attitude d'une mère et d'un père, d'une amie. Je me suis dit, mais s'ils sont ainsi incompétents pour élever un enfant, je préfère quand même les confier à des homosexuels. La manipulation supposée des enfants par les profs, c'est une véritable chimère, c'est une espèce de d'épouvantail que l'on agite en permanence. Et donc ça permet d'ensuite avoir ces propos-là qui semblent frapper du coin du bon sens, de dire le devoir de réserve, la neutralité, mon avis contre deux choses. Est-ce que c'est parce qu'ils sont professeurs qui devraient être neutres, parce qu'ils sont employés par l'État, parce qu'ils s'occupent des enfants, on voudrait qu'ils soient ou pas? Et je me pose la question de finalement quelles sont les véritables raisons. Parce qu'à la rigueur, le devoir de réserve, oui, pourquoi pas? Mais pourquoi, surtout? C'est une véritable question.
Ah, bon, dans le cadre de ton travail, quand même, tu vas pas affirmer des choix politiques ou critiquer, je sais pas, l'État, etc., face à des élèves. L'idée, c'est de les accompagner.
Face à des élèves, mais en dehors.
Réflexion. Non, en dehors, le devoir de réserve s'applique sur ton lieu de travail, à proximité, quand tu es fonctionnaire. Maintenant, tu as le droit de manifester, tu as le droit de militer, tu as le droit de faire des choses en dehors. Le devoir de réserve, c'est au sein de ton travail, de ton établissement.
Mais alors pourquoi il y aurait une polémique autour de sa déclaration?
Mais comme il y a une polémique sur la laïcité, hein, tu sais, en disant...
Non, mais c'est une vraie question.
Tu vois, bah oui, c'est une vraie question, mais parce que certains disent, non, mais les profs, elle n'a pas à dire ça. Voilà.
Et parce que certains disent, parce qu'elle va manipuler les enfants une fois qu'elle sera de retour à l'école. C'est ça, tout l'enjeu. C'est l'absence de confiance que l'on va lui porter en tant que professeur dans sa capacité à transmettre non pas des opinions, mais à transmettre un savoir à ses élèves. Et quand tu parles de la manière dont on essaie finalement d'élever nos enfants et d'avoir une école qui serait comme un relais autoritaire finalement de ce que souhaiterait l'État, c'est exactement cela. C'est que l'on voudrait d'une école qui émancipe, en tout cas ça fait partie des grands principes qui ont présidé à sa création et à son côté universel depuis quelques décennies maintenant. Mais lorsque l'on se retrouve face au concret, c'est-à-dire face à la véritable émancipation, donc face au véritable libre arbitre, eh bien là on est quand même vachement plus embêté parce que ça ne sert pas nos intérêts. Je vais faire pour la énième fois, mais pour la première fois dans cette émission, référence à un texte d'un penseur moderne, d'un philosophe actuel. Donc forcément déjà vous pouvez vous caler dans vos fauteuils parce que parler de philosophe actuel, il y en a pas beaucoup qu'on en apprécie particulièrement sur cette antenne, et lui n'en fait pas partie non plus, puisqu'il s'agit de Luc Ferry, ministre de l'éducation, qui avait eu ce texte absolument incroyable, qui avait écrit ce texte absolument incroyable, j'en ai déjà parlé dans Carte Blanche, c'est certain, 100%, qui avait écrit ce texte sur les contradictions de l'homme de droite, et donc qui disait à ses chers contemporains et à ses chers confrères de droite, comme lui, qu'il y avait une contradiction qui n'était pas soutenable et qui pourtant dans laquelle il se vautrait, qui était qu'il souhaitait des enfants qu'ils soient des consommateurs. Il voulait que les enfants, les jeunes, soient des gens qui achètent des portables, qui envoient des SMS, qui consomment des barres chocolatées avec tel ou tel logo dessus, qui achètent, qui consomment. Mais il voulait aussi, ces mêmes hommes de droite, des enfants bien éduqués, qui savent écrire, qui savent lire, qui savent réfléchir, qui savent finalement évoluer dans le monde, qui sont émancipés, qui ne sont pas juste des objets de consommation. Et ça, c'était pas possible. Il faut l'un ou l'autre. On peut pas avoir les deux. On peut pas émanciper et espérer que les gens soient des consommateurs aveugles. Et cette contradiction, elle est fondamentale. Et elle est dans l'école. On veut émanciper, mais on voudrait pas qu'ils aient un esprit critique. Et c'est pour ça que on a une sorte de phénomène de fond en ce moment avec une volonté d'avoir une école qui forme au métier de demain, soi-disant par pragmatisme, mais surtout qui ne forme plus l'esprit critique.
Ben voilà, c'est ton analyse.
Ouais, mais il y a un truc qui est très intéressant pour revenir à ce qu'elle dit. Elle fait le parallèle très vite avec les violences policières.
Oui.
Et elle dit « nous devons cesser d'être les complices ». Des violences de l'État à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de l'éducation nationale. Et c'est toute la question que l'on doit se poser, c'est cette question-là, très difficile à aborder, très existentielle, de la complicité des acteurs exécutant des décisions politiques. C'est exactement autour de quoi porte la question systémique autour des violences policières. Les policiers, et aussi dans une certaine mesure les gendarmes, appliquent des consignes, applique une culture interne, et c'est en cela qu'il y a un problème, et c'est en cela que le problème est systémique. De la même manière, lorsque des écoles vont appliquer des directives qui sont stigmatisantes sur des critères qui sont aléatoire, eh bien, ça ne peut créer que de l'injustice, que de l'injuste au sein des établissements scolaires. Et la question de la responsabilité individuelle, désolé pour le point de Godwin, mais ça fait normalement 70 ou 80 balais que l'on se la pose et que l'on a compris qu'il y avait une responsabilité individuelle, y compris dans des décisions politiques et collectives.
Bien. Donc, de toute façon, je pense que ça va retomber aussi vite. C'est l'actualité rapide, voilà, des gens qui s'excitent sur Internet. Juste avant de proposer une petite pause musicale, on va bientôt arriver à l'heure d'émission dans un quart d'heure. Je voulais quand même revenir sur ce qui se passe au Haut-Karabakh. Moi, je reviens là-dessus parce qu'il y a 8 mois, j'avais fait une émission avec une journaliste qui est allée sur le terrain. Personne n'en parlait en France, en Europe. Et elle nous avait alerté déjà à l'époque. Il y a d'ailleurs ses bouquins qui sont ici. Et elle nous disait, il se passe un truc monstrueux là au Karabakh. Et on s'aperçoit qu'elle avait raison. On assiste... Alors, les mots ne sont pas dits, mais... C'est pas une épuration, c'est un exode en tout cas, ça c'est sûr. Où les Arméniens quittent cette région, azerbaïdjanaise, avec ce silence qu'on entend des Russes, enfin qu'on entend, qui se positionne pas. Presque toute la population de l'enclave arménienne en Azerbaïdjan a fui. Donc t'imagines, c'est comme si Monaco se vidait. Alors je sais pas s'il y a même
je crois qu'ils ont pas fui en Ferrari par contre.
Non, ils ont pas fui, enfin, plutôt que de vivre ou périr sous la férule de l'autocrate Ilham Aliyev, l'Arménie est mise au défi de l'accueil de plus de 100 000 réfugiés. Il paraît. Alors, il y a certains témoignages là aujourd'hui qui nous reviennent avec des vrais témoins pour le coup en disant que c'est une horreur avec des scènes abominables, c'est ça. On en parle en France de plus en plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? Est-ce que l'Europe doit faire quelque chose? Est-ce que, alors la Russie, on en parlait aussi. Voilà, je pense qu'elle a autre chose en ce moment à gérer, parce qu'on, voilà, on le sait, hein, l'Arménie était quand même très proche de la Russie, faisait partie de l'ancienne URSS. Il y a aussi des intérêts avec la Turquie, donc voilà, et on a l'impression qu'on peut pas faire grand chose. En fait, on est démunis. On voit 100 000 réfugiés partir d'une région comme ça. Et je trouve que c'est assez... Alors, il y a les punaises de lit qu'on peut traiter dans l'actualité, mais il y a ce fait, plus qu'un fait, cette actualité qui est quand même assez, assez dingue. Voilà, je sais pas, tu veux dire deux mots là-dessus?
Non, mais comme je suis beaucoup moins compétent que toi sur ce sujet, c'est un sujet qui est apparu de manière tellement éthérée dans l'actualité que c'est étrange, on en a parlé.
Il la traite quand même de plus en plus dans l'actu.
On la traite de plus en plus, effectivement, mais ça reste quelque chose, on est un peu face au fait accompli. Là, on commence à avoir des points de vue qui s'expriment, on va avoir des représentants des deux pays qui vont dire, qui vont tenir un petit peu leurs propos, et puis on les traite un petit peu de manière égale d'ailleurs, je trouvais ça un petit peu étonnant. On va finalement les prendre comme des débats, comme un débat, un désaccord.
Et on sait qu'on est attaché à l'Arménie, nous en France, on a une histoire avec l'Arménie. Et on a cette ambassadrice azerbaïdjanaise qui s'exprime là sur les plateaux. Certains disent qu'il faudrait, alors c'est un vrai coup pour de quelle sorte du pays en fait. On peut expulser un ambassadeur, ça marque quelque chose. Pour l'instant, c'est pas fait. Moi, je suis assez troublé par cette histoire parce qu'on en parlait comme ça. Moi, je connaissais même pas le Haut-Karabakh il y a 8-10 mois. On me racontait ça, il se passe un truc vraiment avec notre invitée journaliste qui avait les larmes aux yeux parce qu'elle venait juste de rentrer. Et on s'aperçoit que nous, on peut pas faire grand chose, en fait, juste assister à ça.
Bon. Ouais, et puis je crois que collectivement, on n'en peut plus, un petit peu.
Ouais.
Le timing est parfaitement choisi en réalité par l'Azerbaïdjan parce que on est tellement tous saturés, il y a tellement évidemment ce problème avec la Russie qui fait qu'on va peut-être pas être trop se mêler des affaires qui sont trop proches des frontières russes, ce qui fait qu'en fait c'est le bon moment pour faire cela. On peut à peine se contenter de condamner ça, mais et on le fait même pas d'ailleurs, comme tu le dis là. J'entendais donc justement cette ambassadrice de l'Azerbaïdjan dire non, mais ils sont partis de leur plein gré. On leur a dit de partir, ils sont partis. C'est jamais comme ça que ça se passe.
Non, mais
ça n'est jamais comme ça que ça se passe.
Il y a pas 100 000 personnes qui partent de leur plein gré, quoi.
Tout à fait.
Ça n'existe pas, en fait.
Et on le laisse on laisse tenir ce genre de propos, ce genre de discours, comme si c'était un point de vue. Alors que c'est un point de vue qui n'a aucune crédibilité. Et c'est un peu là, dans le monde dans lequel on se trouve.
Bien. Sans transition, au Sénat, Gérard Larcher
ah oui.
a été réélu dans son fauteuil. En effet, le sénateur des Yvelines a été reconduit. Voilà, alors il faut savoir que c'est son cinquième mandat, je crois.
Ouais, tout à fait.
Voilà, cinquième mandat, donc c'est de 3 ans, hein, donc ça va faire 15 ans. 15 ans. Gérard Larcher, alors il faut savoir que c'est le deuxième personnage de l'État, en fait. Hein.
Oui.
En fait,
si Macron passe l'arme à gauche, c'est lui qui devient.
Voilà, en attendant de mettre en place des nouvelles élections. Donc voilà, facile pour lui. Il a été plusieurs fois épinglé pour un manque de transparence de sa présidence. Mais il est comme réélu tranquille.
Non, il n'est pas quand même réélu. C'est bien pour cela qu'il est réélu. C'est bien pour cela.
Oui.
Après tout, ça les arrange tous qu'ils protègent les intérêts particuliers des sénateurs. Ça les arrange. Qu'on ne sache pas où va l'argent. Ça les arrange d'avoir des jolies enveloppes à dépenser sans avoir à justifier auprès de qui que ce soit. Ça les arrange de pouvoir faire tout le clientélisme qu'ils souhaitent. Ça les arrange d'avoir une buvette illimitée et des repas rubis sur l'ongle à la cantine du Sénat. Ça les arrange, ceux qui ont décidé de le reconduire, qu'ils essayent de maintenir la Cour des comptes en dehors des affaires du Sénat. Ça les arrange. Il est prolongé par ce par quoi il a péché.
Eh oui. Alors le Sénat est toujours à droite. Hein. Voilà, il y a eu des élections, je sais pas, on dit partielles. Vous savez, c'est un peu particulier.
C'est au tiers,
le Sénat, c'est un tiers
tous les
trois ans, c'est ça. Et ce sont des électeurs. Alors c'est pas un suffrage direct, quoi.
C'est les grands électeurs.
C'est les grands électeurs, c'est ça. Donc quand on est conseiller municipal, quand on est conseiller départemental, conseiller régional,
voilà. Il y a les maires peut-être aussi.
Il faut être plus en détail, c'est ça. Donc il faut savoir qu'il a 74 ans. Donc lui, bon, la réforme des retraites, c'est pas trop son truc. Je pense qu'à 74 ans, quand on a un siège comme le Sénat, c'est plutôt cool. Hein,
je suis pas sûr que ce soit l'usine pour lui.
Ouais. Non, c'est pas compliqué de venir au travail. Il a été élu dès le premier tour, obtenant 218 voix des 348 parlementaires votants. Contre 64 au socialiste Patrick Kanner et 20 à la communiste Cécile Cukierman et 18 à l'écologiste Guillaume Gontard.
Donc même voilà, là, ils n'ont pas été unis les trois de gauche.
Hein. Ah bah non, c'est pas trop unis. Hein. Donc voilà, il a de nouveau ce siège de cette haute assemblée qu'il a occupé de 2008 à 2011 et depuis 2014. Voilà. Bon, Gérard, félicitations.
Ah bah bravo à lui, évidemment.
On peut regarder pendant la pause musicale, tu sais qu'on peut regarder les déclarations de patrimoine. C'est public normalement de nos élus, tout ça. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point.
On essaie de checker.
Il y a un truc normalement. On va marquer une petite pause. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1. Nous sommes en direct. Cette radio que vous découvrez peut-être, ou peut-être que vous êtes des fidèles. Et restez fidèles parce qu'il se passe plein de choses sur cette antenne avec plein d'émissions super sympas. On est à l'antenne, nous, en tout cas en direct jusqu'à 23h. Il y a un numéro de téléphone 09. Alors je le rappelle, c'est un numéro gratuit. On fait pas de profit sur vos appels. 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Si vous souhaitez nous appeler, juste nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. Je décroche le téléphone, je fais aussi standardiste et vous passez à l'antenne. Puis on échange tranquillement. Puis on aimerait bien avoir quelques appels, ça peut être sympa. 09 72 51 55 46. Et puis on va regarder tout de suite le patrimoine de Gérard Larcher pour voir depuis 18 ans, s'il est bien. et on se retrouve juste après Benjamin Clémentine. Que j'aime bien. Alors Benjamin Clémentine, c'est étonnant, il a essayé de percer à Londres. Bon, il y a beaucoup de musiciens à Londres, c'est un petit peu compliqué pour lui. Il vient avec sa guitare à Paris, il se fait repérer dans le métro parisien. Voilà.
Pas mal.
Je l'ai su il n'y a pas très longtemps.
C'est une success story.
C'est ça. On se retrouve après.
If I held my breath on you, how would I die 1,000 times? And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died 1,000,000 times.
And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis our token. You turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days are falling number. Now these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your dreams.
Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1, c'est du direct, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, il est 21h57, encore une bonne heure ensemble. Alors, on a vérifié, alors je suis en effet c'est la HATVP, Haute Autorité, je sais pas quoi.
Pour la transparence de la vie publique.
Voilà, alors c'est pas très transparent parce que rien n'est publié, tout est néant.
C'est pas mal biffé. Ouais.
Non mais c'est un truc de fou. Les activités professionnelles donnant lieu à une rémunération, gratification, bah c'est néant. Les participations aux organes dirigeants, hein. Alors, les activités de consultant exercé à la date de l'élection, de l'animation au cours des 5 années précédentes, c'est néant. Donc tout est néant. Et si on va avoir un truc, en fait, faut se rendre à la préfecture des Yvelines pour demander. Donc voilà, même son patrimoine n'est même pas affiché. Voilà, il est membre de la commission consultative de secret de la Défense nationale, a priori il touche rien. Il est membre à l'Union des maires des Yvelines, a priori il touche rien. Il était aussi président du comité de direction de 2011 à 2014 à l'office du tourisme de Rambouillet. Touche à rien.
Il était... ouais, non, c'est assez marrant parce qu'on a vraiment toute une colonne de 0 euros sur plein de trucs où il a fait énormément de trucs bénévolement.
Il est bénévole, absolument.
Comme nous, en fait.
Voilà, exactement. Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Gazeran, il était aussi délégué. Touche à rien. De 2011 en 2014, il a rien touché. Il était aussi délégué. Je dis tout, hein.
Mais 2011-2014, c'était vraiment des années fastes, hein, ce qui le concerne.
Ah, bah, il a fait plein de choses, hein. En tout cas, il était en cumul de bénévolat. Syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Rambouillet.
Ah, mais non, mais je comprends pourquoi 2014, excuse-moi. C'est juste que c'est le moment où il a été élu. Donc là, il vient d'être réélu.
Ça, c'est de 2011 à 2014, c'est la période creuse, je crois.
Non, mais c'est surtout c'est à ce moment-là qu'il a déclaré. Il a déclaré au moment où il a été élu. Il a déclaré son patrimoine. Donc ça s'arrête à 2014 pour la plupart des trucs. Ah, maintenant, il y a des trucs de 2017. Qu'est-ce que je raconte?
Ah, bah, si tu trouves. Moi, je vois du zéro partout ou du néant. Il était président du syndicat intercommunal de la région de Rambouillet. Bah, néant, zéro. Syndicat de mix d'élaboration. Il a fait beaucoup de trucs quand même. Il bosse, hein.
Ah, non, mais. Ouais.
Président conseil de surveillance de l'hôpital de Rambouillet. Un autre. Mais zéro. Voilà, on fait ça aussi bénévolement. Mais il assiste à des réunions. Il a été président. C'est un truc de fou. Société mixte immobilière de Rambouillet, zéro, pas de rémunération, pas de gratification. Société des courses de Rambouillet, faut le savoir, il est membre, voilà, donc c'est une activité qu'il a conservée, zéro. Membre Maison de l'Emploi, Centre et Sud Yvelines, zéro. Bon, il est membre, voilà, peut-être qu'en étant membre, voilà. Donc j'essaie quand même de trouver un truc pour savoir combien il gagne, un petit peu comme les activités professionnelles exercées à la date de l'élection. Ah, ses activités professionnelles, voilà. Il était collaborateur parlementaire. Voilà, déclaration de modification des intérêts d'activité, déclaration d'intérêts. Mais en patrimoine, je vais aller sur patrimoine quand même, parce que c'est intéressant de savoir s'il a une petite maison sympa à côté de Rambouillet, ou à Rambouillet même. Et je dis pas qu'il a pas le droit de l'avoir, mais comme c'est transparent, normalement, on devrait... Alors, tout est consultable à la préfecture. Voilà, déclaration de modification patrimoine. On doit aller en préfecture. Modification substantielle de situation de patrimoine. Ouais, sous préfecture. Donc, on peut aller à la préfecture des Yvelines. Je sais pas comment ça se passe d'ailleurs. On va où? On va à l'état civil. Je sais pas. On souhaite avoir la déclaration de monsieur Larcher. Bon. Voilà. Bah, on sait rien en fait. Après, on peut quand même creuser de savoir combien touche un président de Sénat. Je pense qu'on peut trouver ça quand même quelque part. Voilà. C'est assez marrant ce site quand même parce qu'on peut on tape des noms. Alors on va essayer un ministre. On peut te rentrer un petit ministre.
Ah bah vas-y, je t'en prie. Tu penses à qui?
Alors on va Darmanin.
J'étais sûr que t'allais dire Darmanin.
Gérald Darmanin. Vous êtes en direct sur Cause Commune 93.1. On est sur le site de la Autorité pour la transparence de nos élus. Voilà, Gérald Darmanin. Ah, voilà, on va regarder un petit peu comment ça se passe aussi.
Il est sénateur depuis 34 ans d'ailleurs, j'apprends ça au passage.
Ah, d'accord.
Ça va.
Bon, il doit avoir un petit.
Il a eu le temps de faire du réseau.
Il doit avoir une prime d'ancienneté. Son patrimoine à Gérald, quand même. Donc, il a pas d'immeuble bâti non bâti, il a pas de part dans des sociétés immobilières, il a des instruments financiers, je sais pas trop ce que ça veut dire, il a des assurances vie et les comptes bancaires courants et produits d'épargne, ça on peut regarder. Hop. Voilà. Donc, sur son compte courant, la banque postale, c'est marrant quand même, il a 30 000 euros. Bon, voilà. Il a un compte courant, Fortunéo, elle a 49 euros. Donc là, il a beaucoup dépensé.
c'est incroyable qu'on ait ces infos.
C'est la transparence. Pour le coup, en tout cas, on a des chiffres. Il a un livret A, toujours à la banque postale, 22 000 euros, 947. Voilà. Il a aussi Arca Direct Bank, là, elle est zéro. Donc il a il a tout vidé. Il a un autre livret A où il a encore 22 000 euros. Voilà. Il a des biens meublés divers lorsque leur valeur unitaire, mais il n'a rien en bien immobilier, a priori, qui apparaît. On peut se dire qu'il n'a pas beaucoup, en fait. C'est pas énorme non plus.
Bah, ça se trouve.
On va rien dire, sinon on va avoir des problèmes.
Elle est vieille la photo aussi, hein, on est d'accord.
Voilà. Et donc, c'est assez marrant de jeter un coup d'œil. Hein. Donc, chers auditeurs, si vous voulez savoir combien gagnent vos élus ou les ministres, s'il y a une maison quand même. Voilà, de Gérald Darmanin, une maison qui est estimée à 618 000 euros. Voilà. Dans le 59, c'est dans le nord. Voilà, ça fait 300 mètres carrés. Bon, et évidemment. Il est à Beauvau, il a un truc aussi assez sympa, et là je pense qu'il paye pas.
Un petit pied à terre.
C'est un logement de fonction, très tranquille, dans un quartier plutôt sympathique de Paris. Voilà, c'était la page Nos élus, Gérard Larcher, donc les auditeurs, si vous souhaitez, parce que ça, on consulte rarement les déclarations de situation de patrimoine dans le site hatvp.fr. Voilà. On a le salaire d'un président de Sénat?
D'un président de Sénat? Ah, c'est une bonne question. Bah, on va aller chercher ça, évidemment. Sachant que il doit pas être très loin du président tout court, en fait. Je dirais comme ça de...
Ah, parce que le président gagne 15 000 euros, hein, je crois que c'est ça.
Et du coup, elle est estimée à 14 000 balles, à peu près, entre 14 et 15 000. Voyons, qu'est-ce que ça dit?
Évidemment. Il n'y a pas les frais de bouche, il n'y a pas l'appartement de fonction,
il n'y a pas les petits défraiements bien pratiques.
Ils sont plutôt sympas.
Mais oui, c'est ça, on est alentours de 15 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Puisque les sénateurs, ils ont 15 000 euros. Plus de 7 000. Oui, parce qu'après, il y a la... Alors, 7 000 pour le président du Sénat. Non, 7 000 et quelques pour le président du Sénat.
Ah, 7 000 et quelques.
C'est ce que dit, Wikipédia. Je vais pas te mentir, j'ai pas eu le temps de chercher.
Bon, d'accord. Une petite prime de Noël, non, même pas. Non, bon, d'accord. Bien. On est quand même toujours sur Cause Commune 93.1. Alors, ma cousine qui dit podcast, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, podcast? Je sais pas.
Podcast, ça parle de ton téléphone portable.
Ah, d'accord. Non, tout va bien, ma cousine. Non, c'est bon. J'ai mis une petite protection quand même. Parce que je le fais tomber régulièrement. Donc, voilà. Je fais attention. Tu voulais nous parler, Lucas, de Lula.